L'agité du local.
Du lundi au vendredi
à 12h15 sur le 100 attends sur le
sur 107.9 101.7
sur notre radio.
Sur l'autre radio, bien sûr, bonjour et bienvenue dans l'agité du local, dernière de cette semaine, évidemment. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, toujours en direct à Laval, mais je reviens bientôt, j'espère, promis.
Effectivement, là, pour le coup, ça ne dépend pas que de nous, tout ce qui est les confinements. Oui. Oula, si je n'arrive plus à parler, cette émission va être très très compliquée. Pour de la radio, c'est un petit peu compliqué, effectivement. On espère, on verra de toute façon, mais ça ne nous empêche pas, comme vous l'entendez, de continuer à faire cette émission. On essaie du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on va parler des lieux publics de Laval échangés. Est-ce qu'ils sont accessibles aux personnes handicapées? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les volontaires d'Unicité en testant et recensant cette accessibilité via l'application J'accède. Claire, justement, tu étais avec eux lors de ces tests. Une semaine en 4x4 dans le désert marocain sans GPS, même pas peur pour Mathieu et Marine Melchior, le couple de Mayennais se prépare à participer au rallye Gazelle and Men, ce sera en novembre prochain. Et puis en fin d'émission, le dernier épisode de notre série auprès des élèves du collège Jean Rostand, et pas n'importe quels élèves, plus précisément ceux qui participent, qui font partie de la classe orchestre qui a enregistré un CD au Rex à Château-Gontier il y a une dizaine de jours, vous entendrez leur témoignage en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Le mois d'avril sera déterminant pour l'épidémie.
Selon Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé, il estime que l'épidémie connaît un plateau élevé, avec au niveau régional un taux d'incidence à 306 et un taux de positivité des tests à 6,4%. En réanimation, la moitié des lits est occupée par des patients malades de la Covid, une part en hausse mais pas exceptionnelle, selon le docteur Pierre Blaise, qui rappelle que l'essentiel des contaminations se fait dans la sphère privée. Des autotests pourraient être disponibles bientôt dans les pharmacies, notamment à destination des assistantes maternelles. Quand je disais bientôt, ce sera dès mi-avril normalement. Et cette semaine, 11 000 enfants de personnel prioritaire ont été accueillis dans les écoles des Pays de la Loire.
Les soignants se rassemblent devant l'hôpital de Laval cet après-midi.
À 14h plus précisément, les agents de l'hôpital de semaine s'estiment méprisés par leur direction qui n'a toujours pas validé leur congé d'été à 3 mois de l'échéance. Mobilisés depuis un an dans ce service transformé en médecine polyvalente, ils ont besoin de se projeter sur les repos tant attendus, selon FO et la CGT. La crise sanitaire s'applique à tous et pas uniquement aux services de réanimation, rappellent les syndicats.
Prévues dans 3 communes, les élections complémentaires reportées.
À Saint-Aubin, Fosse-Louvain, Rennes-en-Grenouille et Val-du-Maine, les habitants devaient voter pour leur maire ce dimanche. Mais en raison de la situation sanitaire, la préfecture a annoncé l'annulation du scrutin. Il pourrait être reporté les 23 et 30 mai prochains ou les 30 mai et les 6 juin. En attendant, les premiers adjoints ont été désignés maires par intérim.
La RN12 fermée la nuit entre Mayenne et Saint-Georges-Butavant.
Et ce, à partir de lundi, en cause 4 semaines de travaux pour rénover la chaussée entre les 2 communes. L'opération se fera exclusivement de nuit. La route sera fermée donc à la circulation entre 20h et 6h du matin, entre Mayenne et Saint-Georges-Butavant, dans les 2 sens de circulation.
Trop d'erreurs de tri dans les containers du pays de Mélégret.
La communauté de communes estime à 17% le taux de déchets mal triés. Pour les limiter, elle lance une grande opération de communication ce printemps, avec des permanences assurées par Christophe Charrier, chargé de prévention déchets, pour répondre aux interrogations des habitants et leur distribuer guides et sacs de tri. La prochaine permanence est organisée demain samedi sur les espaces propreté de Bazouges de 10h à midi et de Bouère de 14h à 16h. Le 15 mai, ce sera à Mélé-du-Maine et le 12 juin à Villiers-Charlemagne le matin et l'après-midi à Val-du-Maine.
Pendant ce nouveau confinement, la piscine de Château-Gontier reste ouverte.
Grâce à son toit amovible, l'espace aquatique Pierre de Coubertin reste ouvert au public. Jusqu'au 2 mai, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 15h à 18h30. Le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h, hormis le 1er mai, c'est férié. Et le dimanche de 9h à 13h, les saunas et hammams, eux, restent fermés.
Le festival des Mouillotins reporté au mois d'août.
Habituellement, il a lieu au mois de juin, sous chapiteau et en plein air, mais à cause des conditions sanitaires, les organisateurs ont décidé de changer la formule du Festival de musique de Saint-Poix. Pour sa 19e édition, les Mouillotins se transforment en soirée estivale. Prévues les 27 et 28 août prochains, elles accueilleront 500 personnes assises sur un nouveau site dans le centre-ville. La programmation sera bientôt annoncée. Et puis un autre report, celui de la bourse au vélo qui était prévue demain à Laval. L'association organisatrice Place au vélo annonce sa reprogrammation le samedi 4 septembre, au même endroit, entre la halte fluviale et le parking du viaduc à Laval.
Et le foot, Olivier Frappoli signe pour 3 années de plus au stade Lavallois.
Le nouveau dirigeant du club, Laurent Léry, a choisi de prolonger le coach à la tête des Tangos pour les 3 prochaines saisons. Pour rappel, Olivier Frappoli est arrivé à Laval en mai 2019. Il succédait à Pascal Brault. Claire, toi tu as passé tout l'après-midi avec les jeunes d'Unicité à Laval pour aider à recenser les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Et oui, et ce recensement servira à l'application J'accède. Lancée en 2006, c'est une plateforme interactive et collaborative qui permet de cataloguer les lieux pour les personnes ayant des besoins spécifiques, en situation de handicap ou avec une poussette. Par exemple, Unicité Laval participait au challenge lancé entre l'application et Unicité France. Objectif, recenser le plus de lieux possible. Par petits groupes, ils se sont répartis Laval et Changé. Simon nous explique quelques critères qu'il y a à noter.
Donc il y a l'entrée, l'intérieur, l'extérieur et enfin les équipements et services mis à disposition. Du coup, bah, c'est des cases à cocher tout simplement. Il peut avoir des plains-pieds en fait, si l'entrée est en pente ou s'il y a des graviers. Savoir aussi la porte, si elle est accessible par exemple à une personne en fauteuil roulant. On a justement un mètre fait pour ça. Pour l'intérieur, c'est, bah, si l'espace est assez large aussi pour ces personnes. Si justement il y a des, pour les personnes malvoyantes, pour un peu le schéma du bâtiment. Il y a aussi le service, il y a des personnes à disposition pour justement une personne par exemple en fauteuil roulant. Et bien sûr, à la fin, on peut mettre un petit commentaire pour savoir justement si il y a eu, si les personnes sont accueillantes, s'ils sont à disposition, si des trucs comme ça quoi.
Bah, bonjour, je m'appelle Wari. Voilà, donc dans l'application, on va pouvoir avoir accès à plusieurs lieux qui sont notés sur une carte et on va pouvoir cliquer dessus pour pouvoir soit modifier les informations qui sont dessus pour pouvoir renseigner si le lieu est accessible ou pas, ou pour les lieux déjà accessibles pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent du coup avoir accès à cette application, de voir les lieux qui sont accessibles pour eux.
On va voir les commerçants d'abord, d'abord on leur demande, ils nous donnent l'autorisation ou pas, mais on explique bien que si par exemple une personne en fauteuil roulant n'a pas accès, c'est pas pour dénigrer leur magasin par exemple. Pour eux en fait c'est que du plus, c'est justement les personnes qui vont sur cette application pourraient voir ce magasin en fait qui sera répertorié. Et puis même s'il n'est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant, il peut très bien être accessible pour une personne sourde ou malvoyante en fait. Du coup, c'est vraiment pour faire de la visibilité sur leur magasin et en aucun cas pour les détériorer.
Je m'appelle Chloé. C'est un challenge entre les différents unicités. Donc voilà, le but c'est de gagner plus de points avec les autres équipes qui sont parties aux alentours.
Là par exemple, du coup on va faire l'agence du tourisme. Donc on va modifier les informations et là du coup il y a les catégories. Donc là on va aller demander à une personne si justement on peut faire j'accède dans leur structure. Donc après va falloir qu'on voit l'entrée, du coup où on est, si justement il y a des plains-pieds, si l'enseigne est visible et lisible par exemple. Après on va enchaîner par l'intérieur, donc si l'éclairage est adapté, si l'accès en fauteuil roulant est total ou partiel par exemple. Après on va enchaîner sur service et équipement, si par exemple le personnel est initié à la langue des signes. Et enfin on va finir par l'extérieur, donc l'extérieur si par exemple le trottoir où on est, si il y a des pavés, s'il est très étroit, si la rue est en pente par exemple. Puis enfin on va prendre une photo de la structure et on va la mettre sur le site, comme ça le site sera répertorié. Et enfin on pourra laisser un petit commentaire si par exemple il y a une bonne s'il y a quelqu'un pour nous accueillir ou des choses comme ça quoi.
Pour savoir si l'office de tourisme a reçu de bonnes remarques, rendez-vous sur le site et l'application J'accède.
Ah donc on ne saura pas, on est obligé donc d'aller voir cette application J'accède en tout cas. Est-ce que tu as une idée du nombre de lieux en tout cas qui ont été recensés lors de cet après-midi-là?
Beaucoup, je pense une vingtaine, parce qu'ils ont, fait 5 à 10 par groupe et toute l'après-midi. Donc je pense
histoire de bien alimenter bon en tout vérifier. Cas alimenter cette application et ce site. Merci beaucoup Claire pour ce reportage. Alors là on part loin, très très loin hein, de Laval et de ses lieux accessibles ou non aux personnes en situation de handicap. On part du côté du désert marocain, mais on part pas tout de suite, et d'ailleurs c'est pas nous qui partons, ce sont Marine et Mathieu Melchiot qui se préparent donc à participer au rallye Gazelle and Men, ce sera en novembre prochain. Ils nous expliquent cette aventure juste après la pause musicale assurée par She Keeps Bees avec Cold Eye. Sur l'autre radio avec leur morceau Cold Eye, She Keeps Bees. D'ailleurs, Claire, et tu voulais apporter une petite précision.
Oui, c'est ça. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Bee Influencer, où c'est une abeille virtuelle. Donc, c'est fait par des Français. Et en gros, elle poste des photos comme une vraie influenceuse. Et malheureusement, elle est décédée hier à cause des pesticides. Et voilà, ils ont ouvert une cagnotte Save the Bees sur fondationdefrance.org pour justement... continuer le combat malgré qu'elle soit décédée, voilà, les abeilles, c'est le printemps, etc. Donc ça tombe bien. Donc voilà, un sujet pile dans l'actualité et avec le bon morceau, donc bien joué Marie.
Bah, parfait, bah, bien joué Claire, puisque je rends à César ce qui appartient à César. Évidemment, je n'étais pas au courant, donc en tout cas, sauver les abeilles, c'est le message. Ouais. Merci beaucoup Claire. On va partir, on l'a dit, je l'ai dit juste avant justement ce morceau, on part dans le désert marocain avec les Mayennais Marine et Mathieu Melchiot qui forment l'équipage des 4M dans le désert. Ils s'apprêtent à participer au rallye Gazelle and Men en novembre prochain. Pour justement participer à ce rallye sans GPS ni aide extérieure, on fait le point sur les préparatifs et l'aventure qui les attend avec l'un des membres du duo.
Alors moi je suis Mathieu Melchiot, donc chef d'entreprise... dans le milieu de l'ascenseur, avec ma femme Marine, qui travaille à la mission locale à Château-Gontier. Et on a entrepris de faire un rallye au Maroc. Donc c'est l'équivalent du rallye Aïcha des Gazelles, mais en équipage masculin et mixte. On vous le savait un moment qu'on voulait partager l'aventure ensemble. Donc le Aïcha des Gazelles ne nous le permettait pas, comme c'est réservé aux femmes. Et quand on a vu sur Internet qu'ils avaient ouvert ce rallye aux équipages mixtes, on a eu l'idée de partir dans l'aventure tous les deux, quoi.
Donc c'était déjà une idée que vous aviez depuis un certain temps, alors ?
C'était plus une idée que ma femme avait de faire ce genre de choses, mais après, il fallait trouver le binôme, et puis que les étoiles s'alignent, entre guillemets. Donc là, quand on a vu, on avait la possibilité de faire ça ensemble. Comme on est assez complémentaires, on a entrepris de faire ça ensemble. Ouais.
Quel a été le déclic ? À quel moment vous vous êtes dit, bon là, on se lance, c'est parti ?
Je dirais que comme je suis quelqu'un qui a pas mal la bougeotte, quand j'ai vu l'article, ça a été la lecture de l'article qui m'a dit, allez, on se lance, pourquoi pas, quoi.
Et alors, ce rallye, du coup, est-ce qu'on peut le présenter, dire ce que ça va représenter pour vous, ce rallye au Maroc ?
Ah bah, le rallye, pour nous, c'est un gros investissement personnel et mental, puisque forcément, ce n'est pas un rallye qui est accessible financièrement d'une manière générale. C'est mine de rien, mais pour nous, ça va nous permettre de sortir 30 000 euros quand même. Donc c'est un investissement personnel, puisqu'on en met quand même une bonne partie sur la table. Et puis surtout, humainement et sportivement parlant, c'est un rallye qui va nous permettre de sortir complètement de notre zone de confort, puisque c'est un rallye à l'ancienne. C'est une navigation à la carte, à la boussole, au compas de navigation, sans GPS, sans téléphone portable, sans rien de tout ça. Donc nous qui sommes clairement la trentaine, on a quand même un peu vécu avec cette génération GPS et téléphone. Donc là, ça va vraiment être un retour aux sources. Et pour avoir fait un stage en février 2020, vraiment au Maroc, on s'est vraiment rendu compte de l'ampleur de la tâche. Hein. Le paysage va pas nous aider. La navigation à la carte, c'est quand même pas facile. La boussole, moi, je connais un petit peu. Ma femme connaissait aussi. Mais bon, de là, s'orienter que à ça, c'est quand même pas simple, quoi.
Et c'est ce que j'allais vous demander, justement. J'imagine que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc là, vous avez fait un stage. Est-ce que vous allez un peu avant aussi vous entraîner à nouveau pour ça ?
Alors, il y a, pour la navigation pure, il y a un stage qui est prévu par l'organisation pour avoir un rappel un petit peu du principe de base de la navigation au Cap. Après, nous, le 4x4 nous appartient. Donc, on va s'entraîner un petit peu à faire du 4x4. Bon, forcément, on n'a pas de sable. Donc, ça va pas être facile. Mais le stage qu'on a fait justement au Maroc, on a navigué et on a piloté dans le sable et dans les cailloux. Oui, en effet, ça ne s'improvise pas. Et après, tout le monde sera logé à la même enseigne puisque tout le monde aura les mêmes conditions. Mais c'est vrai que c'est une sacrée aventure qui nous attend, quoi.
J'imagine. Et donc, du coup, ce rallye, il s'étendrait sur combien de temps ?
Alors, le rallye en lui-même, c'est une semaine. Ce n'est pas vraiment très long. Après, ce qui est long, c'est l'aller-retour. Alors qu'on descende jusqu'au Maroc par notre propre moyen, qu'on revienne après, qu'on remonte. Donc ça va nous prendre à peu près 3 semaines. Si on prend l'aller-retour, je vais dire 2 semaines et demie, quoi.
Et donc là, c'est prévu en novembre 2021. J'imagine que ça a été reporté en plus.
Deux fois.
Deux fois ? Vous aviez prévu d'y aller à quel moment ?
C'était prévu en octobre 2020. Donc quand il y a eu le premier confinement... Alors, pour information, comme l'organisateur fait le rallye Aïcha des Gazelles et ce rallye-là, plus d'autres, les filles devaient fêter leurs 30 ans. C'était les 30 ans du Aïcha des Gazelles qui devaient partir en mars. Et nous, on devait partir la même année, en octobre. Donc, les filles, c'était déjà bouclé, c'était complet. Ils avaient fait pas mal de com' là-dessus. Donc, elles sont prioritaires sur l'événement, forcément. Donc, elles ont été reportées. Donc, forcément, nous, on a été reportés. Et ça fait quand même 3 fois que les filles sont reportées et nous, 2 fois. Nous, on devait partir en octobre. Après, ils nous ont décalé en mars 2021, et comme les filles n'ont pas pu partir, ça nous a reporté en novembre 2021. Donc on croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu cette année quand même.
Donc là, on l'a vu, vous avez fait un stage aussi bien de conduite que même sur place pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'orientation. J'imagine qu'il y a aussi une grosse partie de financement, en tout cas d'essayer de trouver des financements. Qu'est-ce qui vous occupe là en ce moment ?
Ce qui nous occupe en ce moment, c'est de démarcher les entreprises sans être indécent vis-à-vis d'elles, puisque le contexte n'est quand même pas aidant. Nous, de toute façon, quand on a eu le premier confinement, sachant qu'on devait partir en octobre 2020, de nous-mêmes, on allait décaler notre rallye, parce qu'on ne voulait pas faire une recherche de sponsoring avec cette situation actuelle. Donc ça tombe plutôt bien que ça a été décalé en 2021. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est démarcher les entreprises où on a quelques échos, on estime qu'ils n'ont pas encore été trop touchés par cette crise, pour pas paraître indécent vis-à-vis d'eux, déjà en priorité, quoi. Ça nous complique un petit peu la tâche, parce que y a quand même pas mal de secteurs qui sont touchés. À la base, on voulait faire marcher vraiment les collectivités locales, Château-Gontier entre autres, sauf que les petits artisans, Les petits commerçants, bah, ils sont quand même assez touchés, donc de nous-mêmes, on ne va pas aller les voir tous. Donc on essaie vraiment de viser les entreprises qui pourraient, entre guillemets, tirer leur épingle du jeu dans cette fichue crise et qui puissent vraiment nous soutenir, quoi. Après, bien sûr, hein, s'il faut en remettre un petit peu de notre poche, on n'est pas dupes, il va sûrement falloir qu'on en rajoute un petit peu. Donc c'est pour ça, nous, personnellement, on tire un petit peu à droite à gauche pour pouvoir garder un petit peu de fonds au secours, quoi, pour pouvoir vraiment participer à ce rallye, quoi.
Vous parliez d'un budget de 30 000 euros tout à l'heure, c'est ça ?
Tout à fait, oui. 30 000 euros, c'est avec l'achat du véhicule. Donc nous, tout ça, l'achat du véhicule, on l'a déjà fait. Donc il nous reste quand même encore pas mal de budget à mettre. Là, on a réussi à avoir à peu près un tiers du budget, quoi. Donc il en reste encore pas mal à dénicher, quoi.
Donc évidemment, j'imagine qu'on peut vous contacter si on est une entreprise. Si on a un particulier, est-ce qu'on peut vous aider aussi d'une autre manière ?
Oui, tout à fait. Nous, on a monté une cagnotte Hello Asso. Donc le lien, il est disponible sur le site Facebook 4M dans le désert. Donc un lien où les gens peuvent déposer leurs dons. Et ça, c'est vraiment pour la partie rallye pure. Parce que là, pour information, nous, on est inscrits, ça y est, officiellement. On a commencé à payer l'inscription, donc on sait qu'on le fera. De toute façon, on le fera. En novembre, on part. Si c'est reporté, on partira dans tous les cas. On a déjà l'équipage numéro 120, on a notre numéro. Sur le site internet, on a déjà notre nom d'équipage qui apparaît. Donc maintenant, c'est sûr, on était un peu dans le flou jusque-là. Maintenant, ça y est, on y va. On se lance dans l'aventure, c'est parti, quoi.
Ça, c'est une bonne étape de fête aussi, j'imagine.
Bah oui, puis il y avait une volonté aussi d'avancer un peu, parce que le contexte, c'est toujours pareil, hein, il est quand même pas aidant pour se projeter, donc on avait un petit peu marre de pas trop avoir de perspective, donc on s'est dit, allez, tant pis, on se lance, on verra bien, on vit entre guillemets qu'une seule fois, et il faut avoir envie d'entreprendre pour se projeter, parce que là, ça devenait un peu compliqué, quoi.
Et donc là, les derniers mois qui restent, donc vont être consacrés, je l'ai compris, à la recherche de financement aussi, peut-être à d'autres entraînements. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Pour le rallye en lui-même, nous, on va essayer de se remettre un petit peu en forme, parce que c'est toujours pareil, le confinement ne nous a pas aidés. Comme le rallye, c'est de la navigation, il faut qu'on passe notre temps à descendre de la voiture, aller prendre des points de repérage, remonter dans la voiture, avancer. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'entraîne un petit peu physiquement. Et c'est surtout que là, on a une collecte de vêtements qu'on est en train de commencer à mettre en place. En parallèle du rallye, du coup, on avait envie, en fait, avec ma femme, de vraiment participer humainement, parce que j'aime pas le mot humanitaire, parce que ça veut tout dire et rien dire, mais de participer humainement et activement au pays qui nous accueille. Donc nous, on a, par des connaissances au Maroc, on a trouvé une association qui œuvre vraiment, principalement pour les enfants des villages reculés de l'Atlas. On ignorait complètement, on avait un peu une inculture sur le Maroc, mais l'hiver est très rude au Maroc. Il neige dans l'Atlas, et les villages reculés n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et les enfants, j'ai vu des photos, et on a vu des vidéos là sur de ce que faisait l'association El Baraka Angel. Là, ils viennent vraiment distribuer donc tout ce qui est denrées alimentaires, vêtements chauds, c'est sur ce sur quoi nous on va participer. Ils aident à construire des écoles, ils donnent vraiment pas mal de choses. Donc nous, on va faire une collecte de vêtements chauds. Alors vraiment, on n'a pas une grosse place dans la voiture comme on descend avec notre propre véhicule. Avec la responsable de l'association, on a défini des gants, des écharpes et des bonnets principalement. Après, s'il y a quelques manteaux qui traînent, c'est toujours un bonus. Donc on va faire des collectes, surtout avec l'école de notre fils, à l'école Sainte-Marie. On va voir quand on pourra avoir un peu plus de visibilité, voir ce qu'on peut faire pour se mettre quelque part. On pensait au marché, tout ça, diffuser un petit peu là-dessus pour mettre des malles, se mettre même nous présents et qu'on puisse vraiment collecter ces vêtements. Et après, il faudra qu'on trouve la solution pour pouvoir l'acheminer avec nous dans un minimum de place, quoi. C'est difficile de jauger la quantité de vêtements que les gens sont susceptibles de donner. Donc on a été obligé de se lancer encore une fois un peu sans trop de visibilité. Donc on commence déjà à en récupérer un petit peu à droite à gauche par les amis. Mais comme on n'a pas mis vraiment la collecte en action, là on est en train de faire des flyers en ce moment pour pouvoir diffuser un petit peu. Et quand on aura plus de visibilité, par exemple en l'occurrence avec les écoles, comme elles sont fermées pour l'instant, c'est difficile de déposer des vêtements là-bas, quoi.
Donc à suivre en tout cas. Et donc vous, plus personnellement, du coup, pourquoi vous êtes lancé là-dedans ? Vous disiez au début vraiment ce goût aussi de l'aventure, du challenge. C'est vraiment ça qui a guidé votre inscription ?
Oui, tout à fait. C'est l'envie de sortir de sa zone de confort déjà. Puis avec ma femme, on aime bien l'aventure. toute échelle, hein, mais on aime bien les voyages, on aime bien l'aventure, on aime bien partir un petit peu dans l'inconnu. Donc c'était vraiment cette volonté-là. Après, c'était une envie vraiment de partager une aventure un peu hors du commun. Quoi. Tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne se lève pas le matin en allant faire un rallye au Maroc sans GPS, tout ça. Donc c'était vraiment cette envie de sortir de cette zone de confort, de se remettre complètement en question et de que ça nous ressoude, même si on n'est pas dessoudé, mais que ça nous vraiment que ça nous qu'on partage vraiment, qu'on vive une aventure humaine un peu hors du temps, quoi.
C'est ce que vous allez chercher. Est-ce qu'il y a des choses que vous craignez un petit peu, qui vous font peur sur cette aventure avant de démarrer là?
De perdre le repère, de plus savoir trop où on est et de se retrouver à être incapable de redéfinir notre endroit sur la carte, et même s'il y a de la sécurité, mais je parle vraiment de perdre un petit peu pied en se disant bah là ça y est, on est perdu, on sait plus où on est, et tourner en rond et perdre du temps, quoi. Comme c'est en plus de la notion de compétition, hein, vraiment c'est, il y a un classement, mais on n'y va pas pour faire de la figuration, mais on y va aussi surtout pour vivre quelque chose d'humain. Donc après, si on fait un mauvais résultat, c'est pas non plus catastrophique. Mais je vous dis vraiment, se perdre au milieu de nulle part, ça par contre, ça, c'est vraiment pas la chose qu'on a envie, quoi.
Est-ce que vous, il y aura un suivi sur les réseaux sociaux, en tout cas, de cette aventure ou?
Oui, à son être, pour être totalement transparent, à la base, le projet est sur 3 ans. On a monté une association avec ma sœur, ma femme et moi-même. Donc on voulait, avant tous les contextes, hein, nous faire le Gazelle & Men, donc le rallye avec ma femme, l'année d'après faire le Gazelle & Men avec ma sœur, et que les filles puissent faire le Aïcha des Gazelles la 3e année. Bon, déjà on va se concentrer sur la première année, parce que déjà il va falloir trouver les fonds pour. Donc ma sœur nous soutient quand même beaucoup, elle est sur la région parisienne, et c'est elle qui fera vivre les réseaux sociaux via les informations diffusées par le rallye. Nous, on pose nos téléphones au début du rallye, on le récupère à la fin de la semaine. Donc on a vraiment, on est coupé de tout moyen de communication moderne. On a le droit, on va recevoir des messages par mail des personnes extérieures, on aura ça tous les soirs. Mais vraiment, nous, on n'aura aucune information de là où on est, ce qu'on a fait dans la journée. Par contre, les gens qui pourront voir en temps réel où on est. Donc ça, ce sera le travail de ma sœur qui pourra nous informer un petit peu des événements de la journée et de la semaine, quoi.
À suivre donc sur leur page Facebook, je vous rappelle le nom, 4M dans le désert. On revient d'ici quelques minutes, le temps de faire une petite pause tout en douceur avec Brigitte et leur morceau Insomniaque.
Depuis que Michel a laissé sa place, toutes les nuits je traîne avec elle. Elle vole mon sommeil, m'épuise, mon lasse. Elle, au moins, elle est fidèle. Égoïste, elle veut qu'on évoque ce qui pique avant le chant du coq. Sadique, ma fatigue, elle s'en moque. Pas sûr que j'encaisse le choc. Tu me veux pour toi toute seule. dans le silence de ma chambre, où mes angoisses comme un linceul sont des ombres qui tremblent.
Insomniaque dans l'agité du local, évidemment, et on les comprend, hein. Chasser cette insomnie, en tout cas, c'est pas du tout l'heure de dormir, c'est l'heure de notre chronique service civique qui s'installe à nouveau sur l'île-Dieu avec Neptune FM, l'une des radios de la Frappe qui participe au projet. Olivier Robin était en mission de service civique à Neptune FM, justement, entre décembre 2017 et juillet 2018. 3 ans après, il revient sur ses 8 mois de volontariat.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Olivier Robin était en mission de service civique à la radio Neptune FM durant 8 mois, du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018, avec des attentes personnelles bien précises.
Alors le but personnel pour moi, c'était d'arriver à mener à bien des projets. Du coup, quand j'étais à Neptune FM, j'avais trois émissions que j'ai pu... Presque entièrement créé, animé et réalisé, de savoir où est-ce que je voulais aller, ce dont je voulais parler, comment est-ce que je voulais le faire et avec quel support. Donc ça m'a pas mal apporté sur le plan personnel.
Après ce service civique, Olivier Robin s'est orienté vers une nouvelle voie professionnelle et recherche un travail.
Maintenant je suis dans la vidéo, plutôt dans tout ce qui est radio, audio, etc. Donc l'orientation professionnelle, c'est pas ce service civique là qui m'a permis de me mettre dedans, mais par contre ça m'a quand même beaucoup apporté en termes d'expérience, même si je m'en sers pas aujourd'hui, et bah maintenant j'hésiterai pas à changer de voie pour aller travailler dans la radio maintenant que je sais que ça me plaît bien. J'ai fini mes études à l'été 2020, un BTS audiovisuel, et du coup maintenant j'attends, on va dire, de trouver du travail. Maintenant que tout est un peu bouché, j'attends que tout se relance encore un peu. C'est du montage de films, montage de clips, de courts-métrages. Il y a aussi un petit peu de réalisation là-dedans. Et voilà, c'était sur 2 ans.
Pour Olivier Robin, avec du recul, ses missions au service des autres étaient positives.
Bah moi, j'ai eu une bonne expérience avec le service civique. Donc il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Même je sais même pas s'il y a vraiment des points négatifs, à part le fait que aujourd'hui, maintenant, je suis dans un domaine qui est pas du tout celui de la radio. Mais en termes de points positifs. Il y a un accompagnement quand même. Pendant 8 mois, on a l'occasion de se développer.
Est-ce qu'après ce service civique, tu étais plus serein sur l'avenir et tu avais plus confiance en toi?
J'avais quand même déjà assez confiance en moi, mais ouais, ça m'a encore plus apporté. Ça a quand même été une bonne expérience avec une bonne équipe aussi quand même. Du coup, c'est une super expérience pour savoir un peu où est-ce qu'on en est et si on est vraiment sûr de ce qu'on a envie de faire.
Si ce serait à refaire, te réengagerais-tu?
Si c'était possible, ouais, je referais un service civique parce que c'était une bonne expérience. Je suis très satisfait moi de comment ça s'est passé pour moi, donc. Il n'y aurait pas trop d'hésitation si c'était à faire. Je m'étais renseigné justement pour essayer d'en refaire un, et on peut en faire qu'un seul, le service civique.
Est-ce que pour toi ça serait important qu'une personne puisse faire 1 ou 2 ou 3 services civiques?
Moi j'aimerais bien, ouais, que ce soit possible de faire ça. Après peut-être d'en faire dans d'autres domaines, mais ouais, pour moi ce serait important de de pouvoir en faire plusieurs.
Pour conclure, Olivier Robin conseille l'engagement en service civique à son entourage.
Alors je le conseille assez souvent. Dès que j'ai des potes à moi qui font rien parce que c'est compliqué en ce moment avec le contexte, je leur conseille toujours de faire le service civique. Parce que on a cette expérience professionnelle là. Donc je leur dis de faire ça vite parce que on peut le faire jusqu'à 26 ans. Et puis ça apporte toujours quelque chose d'avoir une expérience en attendant de trouver du travail. S'il y a des gens qui savent pas trop où est-ce qu'ils en sont, ils peuvent faire un service civique pour avoir vraiment une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le domaine qui les intéresse le plus. Hein. Pour moi c'est important. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
Laurent, Radio Neptune FM, à Dix-Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et la prochaine chronique autour du service civique, ce sera vendredi bien sûr. Et le décor, vous le connaissez bien, puisque ce sera celui du théâtre, ici à Laval. Quatrième et dernier épisode de cette semaine de notre feuilleton consacré au projet mené au sein du collège Jean Rostand à Château-Gontier. Avec, et c'est une nouveauté cette année, l'enregistrement d'un CD par les élèves de 3e de la classe orchestre qui se sont pliés aux exigences d'un album en écoutant, en réécoutant et en répétant au Rex jusqu'à satisfaction, ce qui a un peu fatigué les jeunes musiciens qui sortent tout de même ravis de cette expérience, tout comme leur professeur de musique Karine Segui.
Depuis lundi, on enregistre les sons qu'on a fait des 4 dernières années en classe orchestre. Plusieurs morceaux comme Game of Thrones, Pirates des Caraïbes, du Nirvana. On a un cours de 1 heure chaque semaine par instrument, avec un professeur spécial. Et on a 1 heure et demie en général, ou 1 heure de classe orchestre par semaine, avec tout l'orchestre pour répéter les musiques.
On s'est enregistré dans un micro-sol, du coup, pour le but de se rajouter après sur la bande-son, mais on est concentré avec un casque et on a enregistré en même temps. Ça change, en fait, on a plus le son dans le casque, enfin, dans les oreilles, mais ça va. Je trouverais ça plus difficile, parce qu'on est seul, on n'est pas accompagné avec tout l'orchestre autour, mais on s'y habitue, en fait. On apprend qu'il faut bien être précis, parce que comme on est enregistré, il faut bien faire les bonnes notes, parce que tout s'entend. Et qu'il faut bien jouer ensemble et bien coordonner.
C'était bien, c'était une nouvelle expérience. Et puis c'était fatigant. Je pensais que ça allait être moins fatigant que ça quand même. De rejouer tous les morceaux, puis au final, à un moment, ça commence à faire mal aux lèvres et tout. Et du coup, ça devient dur à jouer. Mais oui, je suis contente de ce qu'on a fait comme travail.
Je préférais la batterie que les autres instruments. Les instruments avant, c'était pas mon truc. Alors la batterie, ça m'a plus attiré. Nirvana est très bien, rock c'est bien. C'est vrai qu'il y a plus de concentration et c'est vrai que c'est facile.
Une grande évolution grâce à leur motivation. Ils s'entendent bien déjà, donc ils viennent depuis très longtemps entre deux. Dans les interclasses aussi, répéter, jouer ensemble. Donc il y a toute une symbiose aussi entre eux, une complicité entre eux qui fait qu'il y a une écoute déjà qu'ils ont et qui est importante aussi, une complicité au sein de l'orchestre pour que ça fonctionne bien. Garder cette ambiance sympathique, effectivement, où on partage, la musique c'est un partage et c'est vrai que c'est très agréable, très plaisant. Pour moi aussi, oui, c'était une première expérience de faire un CD. Donc je savais qu'il fallait répéter, etc. Mais c'est vrai que c'est le soir, on est content de se poser. Et on est effectivement bien fatigué parce que c'est beaucoup de concentration, d'écoute. On ne peut pas relâcher l'attention quelques secondes, sinon hop, on a perdu quelque chose. Mais c'est un super résultat, une récompense qui est super. Donc là, il reste le travail de la pochette du CD à faire. Donc les élèves, on a commencé à y réfléchir. Donc ça, c'est de faire la pochette, faire le petit livret, avec tous les éléments à mettre. Et puis d'ici mi-avril maximum, pour envoyer après tout ça, avec le mixage sera fait aussi. Donc envoyer tout ça au pressage du CD. Pour qu'ils nous reviennent, on s'est fixé à début juin pour pouvoir l'avoir avant la fin de l'année scolaire, en fait.
Et le CD donc devrait être mis en vente au mois de juin pour la somme de 8 euros. C'est l'heure des initiatives avec toi Claire et aujourd'hui tu nous présentes de belles balades à faire ce week-end.
Et oui, on commence avec les marches du coup à 10 km autour de Laval. Tout d'abord le très beau plan de Changé où on peut croiser des ânes par exemple. Ensuite à Saint-Berthevin, il y a le site de Coupeau avec ses rivières, sa petite rando et sa forêt très verte en ce moment. Et enfin un site un peu moins connu, la chapelle de Saint-Trèche à Saint-Jean-sur-Mayenne. On retrouve un mur mérovingien, une grotte et un parcours de marche agrémenté de panneaux explicatifs sur la faune et la flore. Bref, plein de choses à faire et si vous voulez des conseils et des photos, rendez-vous sur le compte Twitter du Mayennais, le Pierre Blog de Voyage du Monde, un compte humoristique sur le voyage et les pépites de la région.
Et on en a bien, bien besoin en ce moment. Après donc les Laval et ses alentours, on prend la direction de Mayenne pour une balade autour du musée du château.
Faute de pouvoir ouvrir ses portes, le musée propose Enquête de patrimoine, une exposition photo sur l'architecture de la région. Tout le long du parc du château, vous pourrez retrouver les détails architecturaux, des zooms sur des bâtiments historiques, les petits éléments qu'on ne voit jamais. Vous pourrez retrouver ces 22 photographies jusqu'au lundi 24 mai.
Merci beaucoup Claire pour ces deux initiatives, ça nous donne effectivement pas mal de petites idées pour ce week-end, un week-end de confiné mais on peut quand même sortir autour de chez soi, donc voilà quelques petites idées que vous pourrez réécouter évidemment en podcast puisque cette émission sera en podcast dès cet après-midi. En tout cas si vous voulez comme toujours nous partager vos initiatives, vos informations, n'hésitez pas à nous contacter que ce soit via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook avec le nom du compte L'Autre Radio ou évidemment sur notre répondeur, je rappelle le numéro, le 09 70 40 59 40. Et c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local de ce vendredi 9 avril. Merci beaucoup Claire, bon week-end.
Merci Marie, merci tout le monde. Et oui, déjà vendredi, donc bon week-end et à lundi, j'ai hâte.
On se retrouve évidemment lundi, mais à l'antenne, évidemment, les émissions, elles, ne sont pas en week-end. Elles continuent. À 20h, il y a Passe-moi le thème qui va vous faire voyager en musique ce soir, à défaut de pouvoir voyager en vrai. Rendez-vous en Suède. Et on se retrouve, nous, pour l'AGT du local avec Claire, lundi à 12h15. Je vous souhaite un très bon week-end.
L'AGT du local, rediffusé à 18h15
sur le 107.9
à Château-Gontier
et 101.7
sur Laval.